à toutes et à tous et bienvenue, vous êtes actuellement sur la 94.9 FM sur Graphite et vous écoutez la saison 2, épisode 2 de Coup Critique. C'est l'émission qui parle de livres, de mangas, de BD, mais surtout de BD et mangas toutes les deux semaines. Je m'appelle Aeva, j'ai avec moi Lisa et Mathieu.
On peut pas dire bonjour?
Oui, bah j'ai oublié, c'est bon, j'ai juste mis le micro.
Bonjour!
Salut!
On est tous les trois membres de la BDBDEC, la bibliothèque de bande dessinée des étudiants de Compiègne. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram pour suivre nos actualités et bien évidemment à la bibliothèque universitaire de l'UTC. On est parti pour une heure d'émission. D'abord autour de nos dernières lectures, puis autour d'une thématique qui sera annoncée tout à l'heure.
Wow.
C'est parti, Lisa, je te laisse commencer. Parle-nous de ce que tu as lu récemment.
Alors, j'ai lu un shoujo. Ouais. C'est un peu une surprise parce que de base, je ne suis pas très shoujo. Et c'était un libraire qui m'avait conseillé suite à une autre lecture dont je vais parler tout à l'heure. Et donc le shoujo en question est en deux tomes seulement. C'est une histoire courte, simple et efficace qui s'appelle « Sur la colline où poussent encore ses fleurs ». Vraiment le titre bien shoujo. Ouais. Et c'est de... alors, le dessinateur, c'est Daichi Matsuse et le scénariste Natsue Shiomi.
Voilà. Ok.
Alors, pour vous faire un peu vite fait le speech, c'est en gros un espèce d'isekai ou retour dans le passé. Ça raconte l'histoire d'une lycéenne qui aime pas sa vie. Voilà, elle aime pas sa daronne, elle aime pas l'école, elle se dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie, c'est pas intéressant. Bref, émo teenager bien blasé, voilà. Suite à une fugue, voilà, parce qu'elle avait rien d'autre à faire que fuguer, elle se fait ramener dans le passé, mais... pas un passé très sympathique, puisqu'il s'agit juste de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, le Japon, lors de la Seconde Guerre mondiale, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, bah, elle va rencontrer plein de personnes différentes, des personnes adorables qui vivent ou survivent et qui s'entraident. Donc, c'est plein d'humanité. Et évidemment, vu que c'est un shoujo, vous imaginez bien, elle rencontre un soldat qui, tout fraîchement enrôlé, a décidé et fait partie d'un escadron de kamikazes. Voilà.
Wow.
Et comme de par hasard, le cours d'histoire qu'elle a eu juste avant de se faire téléporter...
sur les kamikazes, je
sais. Exactement. Super. Exactement. Donc elle va nouer des liens avec ces gens, sachant qu'eux, ils vont cut dans pas longtemps.
En fait, ça parle de la Seconde Guerre mondiale.
Un peu, mais plus la partie de comment les gens vivaient ça. Je vois comment ça se passe lorsque...
Bon, ça a l'air très bien.
C'est oui, en vrai, ça a l'air vraiment très très bien. Mmh. Ça a vraiment très, très 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 bien. Ça a l'air super triste aussi.
Ouais, ça a l'air super triste.
Et c'est super triste. Bon, j'ai pas versé de larmes parce que larmes de crocodile, voilà, ouais, on a
il en bonhommes. Faut plus pour faire pleurer Lisa.
Mais non, l'histoire est vraiment touchante. Très touchante. Les personnages sont bien écrits.
Je vois.
Et ça montre vraiment les atrocités de la guerre. C'est plutôt très actuel en réalité.
Bah oui, vu qu'en soi, il y a toujours des guerres dans le monde en ce moment, tout ça. Ouais. Parce que c'est vrai que l'idée que tu apprends quelque chose à l'école sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ça paraît très lointain en fait.
C'est ça.
Que ça ne nous concerne pas directement. Au contraire, c'est des choses qui sont passées depuis des dizaines d'années, voire bientôt un siècle en fait. Et d'un coup, se retrouver plongé là-dedans, ça prend tout de suite une dimension assez réelle et tout ça.
C'est ça, on se rend compte des conséquences de ce genre de choses. Ça va au-delà de ce que l'on apprend.
Je suis en train de le lire et je peux vous dire que c'est énervé comme histoire. Bref.
Mais il est en train de dire, en fait, il est en train de retourner les pages une à une. Il regarde juste les
dessins. C'est énervé, je suis vraiment en train de dire. Non, c'est vraiment bien. Bref. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Ça, en vrai, ça a l'air vraiment très très bien.
Je pourrais vous prêter les tops.
Oh, merci, je ne sais pas demander.
Bah, par contre, oui, c'est pas drôle. Hein.
Bah, j'ai pas l'impression, non. Pas vraiment. Je pense que c'est pas le mood. Bah, merci Lisa pour ta recommandation.
Bah, du coup, on va continuer sur une histoire encore heureuse. Hein.
Ah bah oui, c'est super ce que tu.
Qu'est-ce voilà, que parce que moi, j'ai lu un one shot qui s'appelle Adieu Eri, qui a été écrit par l'auteur de Chainsaw Man, donc Tatsuki Fujimoto, et qui est sorti en 2022. Alors, je vais aller très vite hein, vu que c'est un one shot. Mais en gros, l'histoire, elle commence et c'est un collégien ou lycéen, je ne me rappelle plus, bref, un étudiant, un scolaire. Et sa mère est sur le point de mourir et lui dit bah, « S'il te plaît, mon fils, mon dernier vœu, c'est que tu me filmes jusqu'à ce que je meure. » Voilà, et ça commence comme ça. Donc, très très drôle. En vrai, je ne vais pas en dire plus parce que c'est extrêmement court. Mais ce que je peux dire, c'est que, comment dire, pour ceux qui ont lu Chainsaw Man, il y a toujours, cette atmosphère spéciale qui est liée à l'auteur.
Un peu lourde et bizarre.
Ouais, c'est bizarre. C'est ça qui est très bien, c'est que c'est bizarre, mais en même temps, il y a quand même des côtés émouvants dans l'histoire. alors qu'il y a quand même des moments où c'est vraiment bizarre. Voilà. Donc on peut pas en dire, je peux pas en dire trop, je crois qu'on l'a tous lu, donc on va peut-être en donner chacun notre avis. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment très bien en tout cas.
Ouais, bah moi je l'ai lu aussi du coup. Moi je trouvais ça hyper émouvant et hyper touchant quand même à moi, plein de niveaux. Touchant. Et alors je me rappelle plus extrêmement parce que ça fait longtemps que je l'ai lu quand même. Mais en tout cas j'avais vraiment beaucoup aimé. Et ce que j'avais beaucoup aimé c'était la mise en... J'ai dit la mise en scène. Enfin,
oui, il y a la mise en scène.
Il y a la mise en scène, la mise en page, comment les dessins ils sont agencés les uns par rapport aux autres. Par exemple, quand on regarde une planche, je me rappelle que tous les dessins sont dans des cadres, en fait, à chaque fois. Il n'y a rien qui dépasse des cadres. Oui, parce qu'en fait, c'est comme un film. Oui, parce qu'en fait, filme tout.
C'est ça. En fait, toutes les images qu'on voit, c'est son film, en fait.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Et parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui m'avaient dit « Ah, mais elle est trop bizarre, la mise en page. » En fait, quand on regarde la tranche des livres, vous voyez, il n'y a pas les traces noires qu'il y a d'habitude sur les mangas parce que c'est, les pages se remplissent de dessins. Là, ce n'est pas du tout le cas. Quand on regarde la tranche, c'est tout blanc, en fait. Et quand on regarde à l'intérieur, ça fait très, c'est très carré, répétitif. C'est très carré, en fait, toutes les pages. Mais bah, c'est totalement fait exprès, vu que ça se passe dans un film, c'est tout ça. Est filmé et tout reste dans le cadre, en fait. Et ça, je trouve ça vachement bien. Et bah, je sais pas, c'est un truc, en plus, quand tu l'as remarqué, bah, ça rend le truc vraiment... Ça rajoute un truc cool, je trouve.
En plus, on voit à travers ce manga un peu l'attrait de l'auteur pour le cinéma. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Même que ça soit l'esprit des personnages, le style graphique, ça rappelle... Pas mal Chainsaw Man.
Ah, ça rappelle tout le temps même Chainsaw Man.
Ça rappelle vraiment Chainsaw Man.
En fait, on reconnaît tout de suite que c'est lui qui a écrit.
De ouf.
Moi, ça, Fire Punch, Chainsaw Man.
Ouais, à chaque fois, on sait 100% qu'il est en fait,
reconnaissable.
Dès les 5 premières pages, déjà, je sais pas comment dire, c'est extrêmement triste, extrêmement lourd comme sujet. Mais l'auteur, il se retrouve à faire des concepts parfois qui allègent tout d'un seul coup. C'est super. Vraiment, c'est vraiment étrange comme truc.
Ouais, non, mais ça reste super bien. Et puis pour sa passion pour le cinéma, on peut l'apercevoir entre guillemets dans d'autres œuvres. Dans Chainsaw Man, il y a un petit peu de ça. Mais dans Fire Punch, qui est aussi un autre manga de Fujimoto.
Qu'on vous conseille aussi.
Et qu'on vous conseille aussi, qui est un manga traumatisant pour moi. Mais qu'on vous conseille aussi parce qu'il est quand même bien. Il y a tout un personnage en fait, qui est absolument passionné de cinéma. Et c'est évident que l'auteur il est passionné de ça. Et je trouve ça vraiment bien qu'il en ait fait tout un manga. En plus, c'est pas juste un manga qui parle de cinéma, quoi. Et c'est ça. C'est plus que ça. Et...
Donc, retrouvez Adieu Eri à la BD Bedeck. Parce que nous l'avons, contrairement à l'autre truc.
L'autre truc s'appelle comment déjà ? On rappelle le titre, s'il vous plaît.
Sur la colline où poussent encore ses fleurs. Pas voilà, au milieu de mes recommandations.
Sur la colline où poussent encore ses fleurs. Ouais. Le titre est peut-être la chose la moins bien du manga, je ne sais pas.
C'est vrai que c'est très peu vendeur.
En tout cas, retrouvez Adieu Eri à la BD Bedeck. Merci Mathieu pour ta recommandation. Il faudra qu'on parle plus de Fujimoto un jour, parce que je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire. Pour finir cette rubrique, c'est ma dernière lecture. Je vais parler de She Wasn't a Guy, écrit et dessiné par Sumiko Arai. D'abord, ce manga est publié sur Twitter, en fait, sous forme de petits dessins comme ça. En 2021, et puis l'autrice, elle décide, je pense que c'est une autrice, c'est pas un auteur. Je suis pas sûre à 100%, j'avoue, mais je pense que c'est une autrice. De le publier pour de vrai, d'en faire une vraie histoire en 2023. Donc, un petit résumé, c'est une romance entre deux filles. Ça démarre, ça se passe au lycée, il y a une fille qui est passionnée de rock et elle se rend souvent chez un disquaire en particulier pour acheter ses CD. Elle a un crush sur le disquaire qui a un style un peu émo, un peu gothique. Ouais. Il a un masque, il a des piercings, des trucs comme ça.
La personne n'est pas putain, j'ai oublié le blaze là. C'est pas caractère.
C'est pas un PNJ.
Voilà.
C'est pas un PNJ. On peut pas passer à côté. Donc voilà, elle a un petit crush sur le vendeur du magasin de disques. Sauf qu'en fait, ce qu'elle sait pas, c'est que le vendeur, c'est pas un vendeur, c'est une vendeuse.
Mais non.
Et si. Et qu'en fait, en plus d'être une vendeuse, c'est sa voisine de classe au lycée qui fait étudiant après les cours. Et oui. Et c'est juste qu'en fait, ce style un peu gothique, c'est son vrai style. Enfin, gothique. Bon, voilà quoi. C'est son vrai style. Et au lycée, elle est obligée un peu de cacher ça, ou en tout cas, elle n'ose pas s'affirmer plus que ça au lycée. Sauf qu'évidemment, elle, la vendeuse, elle sait qui est la fille, mais l'autre ne sait pas qui elle est, et s'ensuit une espèce de relation où l'autre sait tout, mais n'ose pas lui dire qu'en réalité, je suis ta voisine de classe, et l'une, alors que de l'autre côté, les sentiments de l'autre fille grandissent de plus en plus et tout. Oh là là, le drame est trop énorme. Je suis extrêmement hypée par She Wasn't a Guy. Je trouve ça vraiment trop bien. Oui, d'où le titre, du coup, She Wasn't a Guy. Elle n'était pas un mec. Pour ceux qui parlent pas anglais. Mais bon, du coup, moi, l'histoire de base, elle me plaît beaucoup. Moi, j'adore les tropes scénaristiques un peu comme ça, un peu rigolo, un peu on s'amuse, mais en même temps c'est intéressant, on va savoir la suite, est-ce qu'ils vont s'en sortir et tout. Moi ça me plaît beaucoup. Moi ce que j'aime particulièrement dans ce manga, c'est le style graphique que je trouve vraiment unique. Déjà, ou l'auteur, je sais pas du coup, a un style de dessin vraiment beau, qui retransmet vraiment bien les émotions, la mise en page, comment les cases elles sont agencées les unes par rapport aux autres, hyper dynamique, c'est hyper vivant en fait, et ça j'aime beaucoup. Et en plus de ça, vous le verrez, en fait, tous les mangas, ils ont cette couleur verte, en fait, aussi bien sur la couverture que dans les pages. Je crois que toutes les pages sont colorées avec cette couleur verte, il me semble. Et c'est vraiment... Enfin, je sais qu'il y en a qui ne s'appelaient pas, parce qu'ils n'aiment pas trop le vert, forcément. Et du coup, là, il y en a partout, et ça peut un peu repousser. Bon, moi, j'aime bien le vert de base. Et en plus, je trouve que ça offre une identité graphique, en fait, au manga. Ça se reconnaît tout de suite. Et du coup, parmi les gens qui aiment bien, soit qui s'intéressent au manga de romance, soit qui, je sais pas, s'intéressent toujours... juste à ce qui se fait en ce moment dans les mangas aux nouvelles sorties, ben ça marque directement, pas tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais beaucoup de gens voient ce que c'est en tout cas. Donc voilà, je vous conseille
ça a l'air vraiment bien.
C'est vraiment bien. Je vous prêterai les tomes aussi si vous voulez. J'ai pas eu le temps de lire le tome 2 encore.
Oh non, le drame!
J'ai pas eu le temps de le lire. C'est pour ça que je voulais l'amener, mais je me suis dit si je l'amène et que tu l'ouvres et que.
Mais je spoil
et
tout.
Que tu spoiles tout alors que je l'ai pas lu, ça va me rendre folle. Donc voilà, je vous conseille ça.
C'est rare quand même les mangas qui sont colorés. Mais oui. Plus d'une page.
Oui, totalement. C'est plutôt rare. Après, il est plus cher, du coup, forcément.
Je m'étonne.
Il est plus cher. Mais il est en grand format aussi. Il n'est pas le format de manga habituel, il est en plus grand format.
Oh.
Et bon, voilà, je suis contente, globalement. C'est...
En effet, là,
c'est
avec...
Mignon, ça fait plaisir, c'est fun, c'est dynamique. Je trouve ça actuel aussi. Mm. Même si je ne sais pas trop quand se passe l'histoire. Je pense qu'elle va se passer de nos jours, l'histoire.
Bah oui,
forcément. Parce qu'en fait, il y a toute une histoire avec les styles de musique. En fait, la musique, elle est hyper importante dans le manga parce que la fille qui travaille chez le disquaire, qui s'appelle Mitsuki, je crois, elle est passionnée de musique rock plus précisément. Elle fait de la guitare, etc. Et l'autre fille qui... se rend chez les magasins de disquaires, elle aussi elle est passionnée de rock et c'est un peu la chose qui les lie parce qu'elles sont dans un lycée où en fait personne n'écoute ce style de musique, sauf c'est du rock plutôt old school, on va dire, années 70-80, que personne n'écoute ça, et du coup ça fait un peu font qu'elles vont se rencontrer, enfin bon, c'est très joli. T'as envie de le lire?
Oui.
Je te les prêterai, t'inquiète pas.
Il va aller chercher les contre-arguments juste pour t'embêter.
Juste pour t'embêter.
Je connais.
Bon courage.
Merci beaucoup, Lisa.
De rien.
En tout cas, parler de She Wasn't a Guy, ça me fait une superbe transition pour introduire notre thème du jour, la romance dans les BD, les mangas. Donc avant de commencer à parler de tout ça, on va faire une petite pause musicale avec Fuyu no Hanashi, qui est un OST de l'anime Given, que vous connaissez peut-être, et dont je parlerai peut-être un petit peu après. À tout de suite. On est reparti pour parler de notre thème du jour, donc qui est autour de, comme j'ai dit juste avant, dans la romance, dans les BD et les mangas.
Ouais, trop bien.
Ouais, trop bien, parce qu'on adore tous la romance, on adore l'amour et on adore les œuvres autour de la romance. Moi j'aime trop.
Moi aussi j'aime trop.
L'objectif, c'est pour toi de te faire révéler le potentiel de la romance.
Ouais, parce que c'est super bien, les émotions et la manière dont c'est expliqué. Pour commencer, pour introduire un peu... la romance, c'est la manière surtout dont elle est exploitée, la manière dont elle est présentée dans les mangas, dans les BD, etc. On va parler de ce que sont que des tropes, surtout des tropes de la romance. Mm-hmm. Les tropes, en fait, c'est des schémas narratifs, des motifs un peu, qui réapparaissent très souvent dans plein d'œuvres.
Scénarios basiques, simples et
efficaces. C'est des scénarios basiques, mais en même temps, c'est pas parce que c'est basique que c'est pas intéressant.
Mm-hmm.
Moi, je pense.
Des bonnes bases.
Exactement. Du coup, pour la romance, j'ai listé quelques types de tropes de romance qui sont souvent repris un peu pour faire des vannes, parce que c'est des choses qu'on a l'impression qu'on a vues 10 milliards de fois. Par exemple, le trope du triangle amoureux. je pense qu'on en a tous un en tête. Moi, j'ai celui de Twilight, par exemple, avec Edouard, Bella et Jacob.
Pour moi, c'est la référence de fou.
Bah, c'est de la littérature, c'est un roman Twilight. Okay, ici, on parle de romans, BD, manga, donc je parle de Twilight si je veux. Je parle de mes romans de vampires si je veux, d'accord. Bah, moi, j'ai beaucoup. J'étais très très fan de Twilight quand j'étais au collège. J'ai lu tous les livres, j'ai regardé tous les films.
Mon Dieu.
Arrête de me regarder comme ça. C'était l'époque et toi, t'étais pas dedans, t'as raté.
En vrai, j'ai envie de voir Twilight, mais juste pour rigoler.
Ah, mais moi, je regarde ça pour rigoler aujourd'hui. Oui. C'est hilarant.
À l'ancienne, c'était vraiment le truc à voir où tout le monde était hypé et tout. Et maintenant, c'est la meilleure source de fans possible.
Oui, mais en tout cas, dans Twilight, il y a, si vous le savez, si vous avez vu, ce qui est quand même très probable ou lu, les trois personnages principaux qui sont Edouard, un vampire, Jacob, un loup-garou, et Bella, une humaine, qui sont au sein d'un triangle amoureux. Les deux sont amoureux d'elle et elle balance, son cœur balance entre les deux, en fait.
Waouh.
Donc ça, c'est un exemple très connu de triangle amoureux. Il y en a probablement d'autres, mais moi, un triangle amoureux que j'aime bien, dans un manga que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, c'est Blue Flag, dessiné et écrit par Kaito, qui est un manga qui parle de romance, en fait. Donc, les personnages principaux sont trois ou un personnage secondaire qui est aussi très important. Je ne sais pas trop si je vais dans la catégorie des personnages principaux ou pas. Et il y a un genre de triangle amoureux entre les trois, sauf que ce n'est pas le triangle amoureux classique où il y a deux hommes qui sont amoureux d'une femme ou deux femmes qui sont amoureux d'un homme. Là, la différence, c'est qu'on va avoir le triangle amoureux, il y a deux hommes et une fille dedans, sauf qu'il y a un des deux hommes qui est amoureux de l'autre mec, et il y a un mec qui est amoureux de la fille, et la fille, elle ne sait pas trop duquel des deux elle est amoureuse, mais de toute façon, et les trois ne savent pas vraiment les sentiments qui se passent entre les trois autres, et de l'un des personnages secondaires, ben, en fait, elle est aussi amoureuse de la fille du truc dans le triangle amoureux, et je trouve ça vraiment, sympa, parce que déjà, ça change un petit peu la dynamique habituelle, c'est pas cringe du tout, au contraire. Tu as lu ?
Non.
Alors. Attention, tu parles d'un de mes mangas préférés, donc fais attention à ce que tu dis. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un manga en fait, qui va parler de sentiments en général et de ce que les personnages ressentent les uns pour les autres et aussi de la difficulté que ça peut impliquer d'être homosexuel en fait, dans un monde, dans une école où c'est pas forcément permis, ou pas que c'est pas permis, mais c'est un peu tabou, tout le monde le sait pas, où ça fait un peu peur de s'assumer. Et puis t'as aussi le fait que tu oses pas avouer tes sentiments à ton meilleur ami garçon, parce qu'en fait tu sais même pas si lui il aime les garçons ou pas, et puis de toute façon il a l'air d'aimer une fille de toute manière, donc c'est un peu compliqué. Et de devoir se réfréner et tout ça. Et
ça, ça doit bien plonger sur ce que ça fait d'être amoureux de quelqu'un, réussir à l'assumer, comment tu le vis, comment ça impacte la relation avec...
Exactement.
Et c'est pas quelque chose comme dans les shoujo habituels où...
Mais c'est pas un shoujo d'ailleurs, je crois que c'est un shonen, il me semble. Ouais.
Oh, ceci explique donc peut-être cela, parce que...
Je sais pas.
Dans les shoujo, généralement, c'est vraiment... Surtout à l'ancienne, quand on regarde les shoujo qui sortaient dans les années 2010, etc. Là. Par exemple, là, j'en ai un en tête. Je sais pas si vous avez la ref. Love Mission.
Ah, ça, de nom, mais je n'ai jamais vu. Je ne connais pas.
Alors, pour le coup, Love Mission, c'est un shoujo paru en 2013, là, écrit par Toyama Emma. Et c'est vraiment le plot triangle amoureux ou quatuor amoureux shoujo à l'ancienne. C'est... T'as le couple de base qui se retrouve dans une situation bizarre où t'as la meuf qui est pas très populaire, le gars qui est super populaire mais un connard, mais du coup ils vont devoir
le bad boy un peu,
exactement, se coltiner les uns les autres, mais après ils vont tomber lentement amoureux, mais après t'as le cousin de le cousin de 2013, c'est toujours comme ça, j'ai l'impression. De la meuf qui se rencontre... Il sert un peu d'amis d'enfance aussi, tu vois. Du coup, le trope de l'ami d'enfance qui...
Bien sûr.
Qui joue le concurrent, voilà. Vraiment, histoire simple et basique. Et tu vois, c'est l'enjeu des différents tomes. Il y en a quand même eu... je sais pas, je crois qu'il y en avait eu... Je vois, il y en a eu 19. C'était vraiment autour de stratagèmes pour patati patata. Pas tant sur
la mission, quoi. C'est la mission. Genre.
C'est ça. C'est pas tant. Il n'y a pas tant d'introspection ni d'analyse.
Oui, je vois. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas, du coup, dans Blue Flag. Parce qu'en fait, l'auteur, il fait des. il a écrit des notes en fait à la fin de son manga pour les lecteurs, etc. Mmh. Et en fait, il a expliqué que lui, il en avait marre en fait quand il lit des mangas, surtout des mangas de romance, qu'il y a une situation hyper compliquée qui pourrait être résolue en 3 secondes si les personnages communiquaient et qu'ils le font pas, et que la situation elle traîne sur des tomes et des tomes et des chapitres et sur tout le manga en fait, et que tout est basé sur un malentendu et que c'est juste, c'est énervant. Et lui, il a décidé qu'il ferait pas comme ça et que ses personnages, ils allaient communiquer et que ce serait tout le point fort de son manga, en fait, de faire communiquer ses personnages et de les faire parler sur leurs émotions et de faire expliquer leurs émotions, en fait. Et du coup, ce qui donne lieu au fait qu'il y a beaucoup de pages où il y a beaucoup de dialogues, mais c'est pas du tout illisible, c'est pas un roman non plus, hein. Mais c'est bien écrit et je trouve ça très juste. Parfois, il y a des points de vue de certains personnages qu'on n'est pas forcément d'accord avec, mais bah, c'est leur point de vue, quoi. C'est des personnages. Et voilà, et à côté de ça, le dessin est magnifique. Moi, je trouve vraiment le dessin très, très beau. Et je trouve qu'il sert beaucoup le propos du manga aussi dans certains moments. Je veux pas trop en dire, mais...
Tu m'en donnes envie de le lire, en tout cas.
Je te les prêterai.
Je crois qu'il faut pas taper Blue Flag sur Google Images parce que sinon, on se fait spoiler, je crois.
Mais en fait, c'est ce qui se passe toujours quand on tape le titre d'un manga sur Google.
Ok.
Mais si je te ferai.
Ok, je viens de me faire spoiler 2 fois en fait.
Bah, arrête.
Franchement.
Arrête la catastrophe. Il y a aussi le trope dans Blue Flag du meilleur ami d'enfance.
On aime ce trope quand même.
Belle transition.
Il m'attendrit beaucoup ce trope. Je le trouve vraiment mignon. Voilà. J'aime beaucoup.
Et du coup, peut-être que vous l'aurez compris à travers le titre, mais le trope de l'ami d'enfance, c'est vraiment la romance qui tourne autour de deux amis d'enfance qui. Soit se retrouvent, soit se rendent compte qu'en fait, ils sont plus que des amis d'enfance. Et de là naît la romance. Et généralement, dans ce genre de cas, la plupart des intrigues tournent autour de la reconnaissance de cet amour, cette affection, jusqu'à la création peut-être d'un couple ou pas à voir. Mais généralement, c'est l'une des options les plus safe, dans le sens que ça finit pas en histoire un peu toxique, etc. Après, ça va être comme l'auteur de Blue Flag l'a magnifiquement compris, avec plus ou moins de complications, de incompréhension, de manque de communication.
C'est ça, exactement. En fait, moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans ce trope, c'est déjà, c'est attendrissant, parce qu'il y a des scènes où on les voit quand ils sont enfants, et que moi, je trouve ça mignon. Donc, déjà, il y a ça. Et puis, le fait que les personnages, en fait, ils aient appris à se connaître depuis longtemps, avant de se percevoir comme des potentiels... De potentiels amants ou amoureux, etc. Ils ont appris à se connaître autrement, et du coup, je trouve que ça donne lieu à de belles histoires, souvent. Contrairement aux tropes de Ennemis to Lovers.
Les amis, j'ai commencé à lire Blue Flag en ce moment et j'étais comme aspiré.
J'espère que t'étais comme aspiré.
C'est faux.
C'est vachement bien.
Okay. Oh. Non, c'est vrai.
Super. Par exemple, un manga auquel je pense, où il y a le trope du meilleur ami d'enfance, c'est Otaku, que vous connaissez peut-être.
Pas du tout.
Pas du tout.
En fait, c'est un manga, c'est pas vraiment un manga de romance, enfin si, c'est un manga de romance, mais un manga de romance... comique, on va dire.
C'est classique, ça aussi.
Une jeune fille qui s'appelle Momose, qui arrive dans une entreprise où elle va commencer à travailler, et en fait elle se rend compte que là, sur son lieu de travail, un de ses nouveaux collègues va être son meilleur ami d'enfance, justement,
de quand elle était petite,
qu'elle n'a pas vu depuis vraiment longtemps. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils se connaissent tous les deux très très bien dans leur vie personnelle, parce qu'ils ont grandi ensemble, etc. Et en fait, tous les deux, ce sont des otaku de type différent, on va dire. Lui, c'est un fan de jeux vidéo, genre vraiment un gros fan de jeux vidéo, quoi. Ouais. Elle, ça va être une fan de manga, de shoujo, de boys love. Elle va participer à des conventions, des choses comme ça. Mm-hmm. Et en fait, sur leur travail, ils rencontrent deux autres personnes. On apprend un peu plus tard, mais assez rapidement quand même, qu'ils sont en couple et qu'ils sont eux aussi des otaku. Il y en a une qui fait du cosplay, il y en a un, c'est un fan de shonen et d'anime et tout ça. Et en fait, du coup, tout le manga, ça va être un peu les petites histoires et les petites aventures entre ces quatre personnages-là, qui sont tous des weebs, des otaku, ce que vous voulez, dans le monde du travail. Ils ont passé la fac depuis longtemps quand même. Ils sont pas vieux, mais c'est une romance plus adulte quand même. Et ils ont déjà vécu des relations, par exemple. L'enjeu n'est pas le premier amour ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment ça.
Ouais.
Et on va plus particulièrement suivre, du coup, Momose et son meilleur ami d'enfance, du coup, qui On sent qu'il y a un truc entre eux, mais c'est un peu compliqué pour eux, parce que comme ils étaient amis depuis longtemps, ils ont un peu peur de passer cette barrière, en fait. Et voilà. Et en plus, c'est vachement rigolo, surtout que quand on est soi-même fan de manga et tout ça, on se reconnaît dans plein de trucs, dans ce qui se passe. Et il y a plein de trucs qui sont vraiment super marrants. Et voilà. Et moi, j'adore ce
manga. Après, j'ai envie de dire, ce genre de version de Childhood Friends to Lovers, ça fait quand même... très pas tant fantasme, mais on sent que c'est imaginaire, parce que la probabilité pour que ça arrive, tu trouves,
ça peut arriver, hein.
Ouais, ça peut vachement arriver,
ça peut arriver, mais
sans, en fait, alors le fait de retrouver
pas trop jeune,
mais... non, mais le fait de là, je sais pas, dans le manga, je crois qu'ils peut-être se sont un peu éloignés en mode au collège, un truc dans le genre.
Ouais, c'est possible, hein.
Mais c'est possible. Franchement, c'est clairement possible. Peut-être pas retomber comme ça sur un lieu, sur ton travail et tout, c'est possible, c'est peut-être rare. Mais juste reprendre contact par une occasion, une autre, quand t'es adulte, en mode « Oh, ça fait des années que je lui ai pas parlé, trop marrant et tout. »
Ouais.
Pourquoi pas ? Je pense que c'est des choses qui arrivent.
J'en suis même certain.
Moi, j'en suis même certain aussi. Bah voilà, quoi, c'est... ça arrive.
je suis convaincue.
Bon, moi, j'en profite pour caler ma recommandation. Bon, allez, en gros, dedans. Bon, c'est. Merde, comment ça s'appelle ? Non, ça s'appelle Grande Boue, c'est bon. Ça s'appelle Grande Boue.
Ouais.
C'est un manga comique, en vrai.
Mm-hmm.
Donc, c'est l'histoire d'un type qui rentre à l'université. Et quand il rentre à l'université, il rentre, je crois que chez son oncle ou quelque chose comme ça. Et donc, il va vers la mer. Bon, on s'en moque. L'histoire, c'est qu'il vit sa vie à l'université. Il fait que boire et c'est rigolo. On s'amuse. Sauf que, bien entendu, là-bas, il retrouve son ami d'enfance, qui en fait, c'est pas son ami d'enfance à la base, qui est sa cousine. Mais bien sûr, on va révéler que c'est pas vraiment sa cousine. Sinon, il pourrait pas y avoir une histoire. Ça, c'est un peu bizarre. Et donc, évidemment, bon, là, il y a 23 tomes maintenant. Bah, au début, en fait, on sent tout de suite qu'il va se passer quelque chose. Mmh. Et au début, il semble, mais non, il va rien se passer. Là, là. Et finalement, forcément, ils finissent par se rapprocher. Et il y a un triangle amoureux parce qu'il y a une troisième meuf qui arrive et qui, en fait, aime bien le personnage principal, mais qui ose pas lui dire. Et qui voit que le personnage principal aime bien son ami d'enfance, mais qu'il y a rien qui se passe. Et voilà. Bon, bref,
je vois.
Pour conseiller Grande Blue, qui est un manga incroyable. Donc, lisez-le si vous avez l'occasion.
On en a déjà un peu parlé, je crois que Mélouane en avait parlé dans une précédente émission, il me semble, et il avait beaucoup aimé aussi. Moi, je connais pas.
Ah bah, c'est incroyable.
Pas du tout.
Mais ouais, apparemment, c'est bien.
C'est de l'humour un peu beauf, quoi.
Ouais, on m'a dit que c'est de l'humour un peu beauf aussi.
Faut bien aimer, mais moi, je trouve ça très drôle.
Ça peut être rigolo quand même. Sinon, je repensais au trope dont on avait peut-être un petit peu parlé, d'amour impossible. Ça, c'est un trope hyper dramatique parfois. Donc, ça peut être bien utilisé, comme ça peut être mal utilisé. Ça dépend du contexte de l'histoire.
Tu as des exemples ?
En fait, j'y pensais justement, parce que je n'avais pas d'exemple jusque-là. Mais en fait, par exemple, il y a un type d'amour impossible qui est vachement triste, c'est quand une des deux personnes est très malade, en fait, par exemple, et qu'elle va décéder incessamment sous peu.
Ah, je sais à quoi
ça
tu penses !
C'est une belle base pour mettre caractère.
Je pense à quoi ?
Tu penses au vent se lève ?
Non, je pense à un animé qui s'appelle... Je veux manger ton pancréas, un truc comme ça. Laisse-moi manger ton pancréas.
C'est ça l'histoire ?
Non, pas du tout. En fait, le titre, il est un peu étrange, mais ça parle vraiment pas de manger le pancréas de quelqu'un.
En fait,
au début, ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu, du coup, mes souvenirs sont un peu flous. C'est une fille et un garçon qui se rencontrent comme ça. Ils sont dans le même lycée, je crois, ou ils se rencontrent dans une bibliothèque, quelque chose dans le genre. Ils commencent à se rapprocher, à s'attacher. Sauf que on apprend très vite que la fille, elle est très malade. Elle a un problème au niveau de son pancréas, en fait, justement. Et le titre vient du fait que je crois qu'elle explique que selon une légende ou une croyance populaire, sa maladie, elle pourrait être soignée si elle mangeait le pancréas de quelqu'un, mais elle ne le pense pas sincèrement. Elle dit juste ça comme ça, et c'est de là d'où vient le nom du film. Et en fait, malgré tout, ils vont quand même s'attacher, se rapprocher de l'un de l'autre, et malgré le fait que son espérance de vie est réduite, et ils le savent tous les deux. Et du coup, c'est super triste, parce que d'un autre côté... lui, il veut continuer à se rapprocher d'elle parce que il l'aime sincèrement, il veut pas se priver de ça, et puis elle non plus, puis elle a quand même quelques années devant elle, mais malgré tout, c'est compliqué parce qu'il faut pas trop s'attacher parce que l'autre va mourir, mais en même temps te mettre des barrières en mode je vais me rapprocher de toi mais pas trop quand même parce que sinon c'est un peu compliqué, enfin bon voilà, donc ça raconte un peu tout ça et la fin est extrêmement triste.
Oui, ça me fait penser en fait, il y a maintenant que j'y pense, je pense en fait quand tu disais amour impossible, je pensais pas du tout à ça.
Moi non plus en fait, j'ai envie de penser maintenant, mais ça
dis,
rentre dans
y
la
y
catégorie.
Il y en a plein qui sont comme ça en fait.
Bien sûr.
Plein.
Ouais.
Le vent se lève juste rapidement, c'est l'avant-dernier film de Miyazaki maintenant. Mm-hmm. Bon, sans trop rentrer dans l'histoire, il y a une romance du genre aussi où l'un des deux personnages qui est dans le couple est très malade et donc ils sont obligés ils sont jamais ensemble et ça parle un peu de ça aussi. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails.
Mmh. Ok.
Dans le même style, il y a vous connaissez sûrement, personnellement j'ai jamais vu, mais le nom est tellement connu que voilà, Nos étoiles contraires.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Jamais vu. Oh,
t'as moi, jamais lu non plus, mais bon.
Ah, moi, je l'ai lu. Moi, j'ai lu quand j'étais au collège, et en fait, en vrai, je l'ai lu un peu trop jeune parce que ce livre est extrêmement triste. Et en tout cas, à l'époque, je sais pas si je le relisais aujourd'hui, ça me toucherait autant. Mais à l'époque, moi, j'avais 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Ça m'a énormément affectée. J'ai énormément pleuré en lisant ce livre. J'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était terrible. Et en fait, ça m'a donné extrêmement peur de la mort. Jusque-là, j'y pensais pas trop. J'ai lu ce livre et vraiment, je me suis dit, mais en fait, je peux mourir du jour au lendemain. Oh là là. Du coup, j'ai vu le film aussi, qui était vachement bien aussi. Et voilà. Et c'est très, très triste.
Ouais.
Enfin, voilà. Ça me fait beaucoup de peine. Pensez à ça.
Non, passons à un autre trope, s'il vous plaît.
Oui, un autre trope. Alors, qui a un autre truc
à y a le truc de base, c'est l'amitié jusqu'à l'amour.
Le meilleur, le meilleur.
Alors, Eva n'est pas d'accord avec toi.
Si, bah, pourquoi pas. Moi, j'aime bien ce trope. Oui, sauf qu'il manque de, il manque de saveur, de spicy. Il manque d'épices.
Ouais, parce que souvent, ça se passe trop bien, en fait. Bon, vas-y, donne ton exemple. Donne ton exemple, peut-être. Après, je donnerai le mien.
De Friends to...
Ouais, si t'as un exemple à donner...
Ah, mais tellement, j'ai l'impression, en fait, que la base des romances, tu sens que ces personnes, elles peuvent faire un couple qui va aller sur la durée. Mm-hmm. Elles vont s'aider mutuellement, elles vont grandir ensemble. C'est des Friends to Lovers. Je suis désolée.
Oui, c'est le trope qui va faire que la relation va le plus tenir la route après.
Mm, très clairement.
Parce que tu vas où avec un enemies to lovers? Tu vas où avec quelqu'un? Hier, tu le détestais. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. C'est trop étrange.
C'est ça.
Non, je suis assez d'accord. Je sais pas si t'as un...
Un exemple.
Un exemple en tête.
J'ai pas spécialement d'exemple. Bon, moi, ça peut être n'importe quel couple. Oui. Hein.
Mon seul exemple, les amis. Le seul truc...
Il va en parler.
Le seul truc c'est que j'ai regardé, référence. J'ai bien aimé. Bon, du coup, c'est pas un animé... Enfin, non. C'est pas un manga. Mm-hmm. C'est un animé... Une série de 50 épisodes, les amis, qui est sortie en 2005, je crois. Je ne sais même pas si c'est vrai ce que je viens de dire. Bon, c'est sorti il y a longtemps. Ça s'appelle Clannad, peut-être que vous connaissez. Moi, je dirais que c'est un classique des shoujo, enfin des animés de romance.
En effet.
Oui, c'est un classique. Alors,
jamais vu, mais en effet.
Pour raconter l'histoire, c'est vraiment l'histoire de base. Hein, voilà. C'est un type qui s'appelle Okazaki, qui arrive au lycée. Voilà, c'est un peu un délinquant. Il est un peu tout seul. Et sur le chemin de l'école, il y a les cerisiers avec les... Vous voyez très bien ce que veut dire les pétales qui tombent.
Oui,
et là, il voit une meuf comme ça, qui s'appelle Nagisa. Bon, bref. Non, bref. Au début, il ne lui parle pas, mais on comprend tout de suite que c'est elle. Et par je ne sais plus quel truc, il finit par tomber sur elle et ils décident ensemble de fonder un club de théâtre. Je crois que c'est ça l'histoire. Et... Au début, ils sont que deux et il va être rejoint par son autre pote délinquant qui a un débit profond. Moi, je sais pas comment il s'appelle, mais il est blond, il est très drôle. Et ça va créer un groupe de potes comme ça. Et bien sûr, ils vont être d'abord amis, mais un amour va se créer entre eux. Et évidemment que c'est un animé à l'ancienne. Donc, en fait, il y a 5 meufs dans l'histoire et elles sont toutes amoureuses de lui. Sauf qu'il n'y en a qu'une seule. Il n'y a que Nagisa, comme je dis, les autres, on s'en moque un peu, qui va remporter son cœur finalement.
Waouh.
Bon, petit détail. Moi, c'est un de mes animés préférés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des premiers que j'ai vus. Donc, si vous le regardez et que vous en avez vu beaucoup, je ne pense pas que ça vous plaise parce que c'est très classique. Là, on n'a pas trop parlé des clichés, mais il y a beaucoup de choses qui reviennent tout le temps. Et je pense que quand on en a lu beaucoup, ça peut finir par un peu nous ennuyer. Et donc, moi, ça ne m'a pas embêté parce que je n'en avais jamais vu, mais je pense que pour des personnes qui n'en ont jamais vu et qui sont même peut-être un peu plus vieilles, ça doit être un peu ridicule. Mais bon, ça, c'est pour la première saison. Et la deuxième saison, donc je ne spoilerai pas, mais il se passe beaucoup plus de choses et c'est. La deuxième saison est vraiment, 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 vraiment incroyable. Mais il faut tout voir, en fait, pour apprécier la deuxième saison. Oh voilà. Oh. Alors, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Ici, personne ne l'a vu, bien sûr.
Non.
Non.
Bref. C'est le seul truc que tu as vu et nous, on ne l'a pas vu. c'est un peu dommage.
Bon, voilà. Donc, ça vient d'un visual novel aussi. Donc, ouais. Ça vient d'un visual novel. Alors, en fait, je ne me rappelle plus. C'est plutôt d'un jeu de romance. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un jeu, vous savez, où vous avez juste des textes, vous devez faire des choix.
Ah, un otome game.
Ouais, je pense que c'est ça. Ça vient d'un otome game à la base et vous devez vous lier d'amour avec cinq filles.
Un peu comme Amour sucré en fait.
Parce que c'est Amour sucré, mais en gros, c'est ça. Dans le jeu, donc il y a les 5 meufs. Mais en vrai, dans l'anime, du coup, il n'y a qu'une seule qui compte et c'est le personnage principal qui s'appelle Nagisa. Okay. Un petit mot aussi sur l'aspect graphique. Ça peut repousser beaucoup de gens parce que c'est très vieux. Alors ça te dira quelque chose. Voilà, c'est ça, voilà. ça dira quelque chose aux gens qui ont vu des animés, ils ont des très gros yeux, quoi. Vas-y, regarde.
Ouais, non, mais j'ai regardé vite fait, oui, ouais. Je vois très bien le style.
Pour ceux qui sont prêts à se laisser attendrir, qui sont prêts à pleurer, voilà. Je vous dis que tout ce qu'ils ont dit, c'est nul par rapport à Clannad. Vraiment, Clannad, quand t'arrives à la fin, t'es au bout de ta vie.
Il dit ça parce qu'il est en colère.
Parce que c'est le seul manga
qui... C'est pas justement ce qui est bien à la fin, c'est qu'on pleure ou on est très triste, pas parce que c'est... Enfin, c'est pas un truc, quelqu'un meurt, il y a un accident ou je sais pas quoi. Il se passe quelque chose de vraiment très fort que quasiment tout le monde dans sa vie a vécu. Et donc, quand tu vois cette scène et que t'as tout vu avant... Ça te fait très... En fait, tu pleures même pas de tristesse, tu pleures de joie un peu. Je sais pas comment expliquer. C'est incroyable. Mais justement, ça arrive au 22e épisode de la deuxième saison. Donc, faut avoir vu les 40 épisodes avant.
Faut vraiment avoir tout suivi.
Et quand t'es attaché au truc, tu vois ça et t'es au bout de ta vie. Je me souviens, petite anecdote. Je l'avais vu à 4h du matin parce que j'étais trop excité. Je l'ai vu et j'étais là, oh non, c'est trop triste. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et après, pendant les deux mois de grandes vacances, j'étais triste. Bon, bref. Clannad After Story, le nom de la deuxième saison. Je vous conseille, c'est incroyable. Mais je pense que si vous êtes un peu trop vieux, vous aimerez pas. Si vous avez trop vu de romance, vous aimerez pas non plus. En fait, le meilleur moment pour le voir, c'est quand on est, je pense, très jeune et qu'on découvre. Parce que c'est extrêmement cliché, voilà. Vraiment extrêmement cliché.
Après, encore une fois, c'est pas parce que c'est cliché que c'est pas appréciable.
Non, mais par exemple,
Mais oui, ça peut être.
Okazaki, mais... c'est le délinquant un peu. Nagisa, elle est un peu faible, elle est un peu malade, elle est timide.
Mais le truc, c'est que. Enfin, le problème, c'est que. Il y a eu tellement de mangas, de BD, de films qui ont été faits depuis tout le temps que tous les personnages sont un peu des clichés.
Oui, non, mais là c'est. Quand je l'ai revu, moi, ça m'a posé de problème parce que c'était un peu le truc que j'aimais bien, mais c'est un peu ridicule en vrai.
Oui.
En vrai, c'est un peu ridicule. Même voir, c'est très ridicule.
Mais ne descends pas l'anime.
J'adore, c'est incroyable. Voilà, du coup, c'est vraiment l'amitié. Bon, tout le monde sait en fait ce qui va se passer. Dès le début, tout le monde sait. Mais au début, ils sont amis et finalement, voilà, il finit par aller. Mais il y a une scène, je vais pas la décrire, mais tout le monde comprend. Il la défend un peu, je sais plus ce qui se passe. Tout le monde comprend qu'en fait, c'est bon, il l'aime et voilà.
Oh là là.
C'est magnifique.
Voilà.
C'est
magnifique. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, un autre à conseiller.
Oh bah moi, je pourrais parler des heures de Nana, par exemple.
Ah bah vas-y.
Donc, je pense qu'il faut parler un petit peu quand même si c'est pas vraiment un manga qui parle que de romance. Ça parle de plein de choses, Nana. Et de plein de choses au niveau des émotions, des sentiments, de comment les personnages réagissent les uns par rapport aux autres. Ça parle beaucoup de dépendance affective, ça parle beaucoup d'amitié, d'attachement, de se chercher soi-même, de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas avoir d'estime de soi, de ce que ça peut pousser à faire. Surtout quand on est une fille dans la vingtaine et qu'on n'a pas vécu beaucoup de choses avant et qu'on est un petit peu perdu. J'y viens. Et du coup...
Je me suis fait fâcher.
Oui. Résumé, il y a une jeune fille qui s'appelle Nana, qui vit en province et son copain il vit à Tokyo et un jour elle décide vas-y je vais aller rejoindre, j'ai envie de vivre avec lui, j'ai envie de vivre la belle vie à Tokyo, j'en ai marre de ma campagne. Du coup elle prend le train sur un coup de tête, elle n'a pas vraiment fait d'études, elle n'a pas de travail, elle n'a rien, mais à part parce qu'elle veut rejoindre son copain et ses amis à elle qui vivent là-bas. Et dans le train, en plein hiver, elle s'assoit à côté d'une autre jeune fille qui s'appelle aussi Nana. Du coup, c'est les deux nanas qui se rencontrent en même temps et qui n'est pas du tout du même style. Elle aussi, elle monte à Tokyo, mais c'est plutôt pour essayer d'y faire carrière, en fait, dans la musique. Et c'est une chanteuse dans un groupe de rock qu'elle n'a plus aujourd'hui, puisque le groupe est dissous au début du manga. Et elle se rencontre comme ceci et... Au final, sur un coup de chance, elles vont se retrouver à faire une coloc ensemble. Et c'est le début, en fait, de la grande histoire, en fait, entre...
Amitié ? Amour ?
Non, c'est une amitié. En vrai, c'est une amitié, mais moi, j'aimerais bien que ce soit plus que ça. Parce que, comment dire ? En fait, il y a beaucoup de moments dans le manga où, quand on voit la manière et la passion qu'elles ont de parler l'une de l'autre, et la manière elles s'aiment sincèrement, réellement, les deux, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles font avec les autres hommes, là ? Genre, être en relation avec eux, alors que c'est tous des pourris. Et franchement, dans l'animé, pas tous des pourris jusqu'au bout, mais il y en a, c'est des raclures.
Je viens de leur mettre des bâtons dans les...
Oh là là, ils sont trop chiants. Et bon, et du coup, ça commence comme ça. Et en fait, ça... comment dire ?
Même son mec ?
Lequel ? Oui, aussi.
C'est un raclure,
bien sûr. Enfin, pas exactement, parce qu'en fait, les personnages sont tous quand même relativement bien développés pour que tu puisses comprendre ce qui se passe dans leur tête et un peu les conflits par lesquels ils passent. Bon, les conflits moraux, on va dire, auxquels ils sont confrontés. D'un autre côté, bon, ça m'empêche pas d'avoir un avis. Voilà quoi. Oui, le problème, c'est que les personnages, ils sont très humains. Et du coup, pour moi, il n'y a rien qui est romantisé dans Nana. Ah. Contrairement à certains animés où, tu sais, les relations, elles sont hyper faciles, c'est hyper mignon et tout. Mmh. Dans Nana, pas vraiment, mmh. je le trouve.
C'est un peu le genre d'histoire où tu ne sais pas où est-ce que ça va finir, en fait.
Oui, et d'ailleurs, le manga n'est pas fini. Et il ne sera jamais fini. Ah. Parce que il date... Alors, le manga, il est très situé temporellement, en fait. Il se passe en plein pendant les années 2000, au début des années 2000. Parce que c'est pendant ce temps-là où ça a été écrit. Et l'autrice, en fait, suite à des problèmes de santé, elle a arrêté d'écrire et elle n'a pas repris depuis. Et ça fait genre peut-être 10 ans, un truc comme ça, que le manga, il est en pause. Donc, en fait, il sera jamais fini, probablement.
Dommage.
Voilà, c'est un petit peu dommage, effectivement.
Mais en tout cas, Nana, ça avait l'air d'être à... manga en avance sur son temps, parce que oui. il faut dire ce qui est entre la romance qu'on avait aux années 2000 oui. jusqu'aux années 2010-2015 là, et les romances qu'on a maintenant, ce n'est plus du tout la même chose.
Mais plus du tout, plus du tout. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis, enfin,
on sort des clichés. Enfin, on passe de romance déjà toute faite, toute écrite, où comme dans Clannad, on sent la chose arriver dès les 10 premières secondes, ouais. en disant ok, ça va être les deux. Ok. Il va la protéger, ok. Elle va lui refaire redécouvrir la vie, tout ça, tout ça.
Ouais, c'est ça.
Il y a quelque chose de beaucoup plus, justement, comme tu disais, humain.
Ah oui, totalement. Mmh. Et ça n'a... Bah, ça n'a rien à voir, quoi.
Mais oui.
Bon, bah, du coup, je vais enchaîner, sauf si t'as quelque chose d'autre à conseiller. Je me suis rappelé que j'avais vu un autre animé que j'aime beaucoup, 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 qui est aussi un animé de romance, mais pas que, qui s'appelle Tatami Galaxy.
Oh !
Ah, tu l'as vu ?
C'est dans mes recos.
Ah là là, bon, bah, je vais juste décrire. Donc, ça a été produit, enfin plutôt réalisé par un de mes réalisateurs préférés qui s'appelle Masaki Yuasa, qui a fait plein de choses.
Ah, ça.
Et qui a un style très particulier. Bon, il a fait Devil May Cry Baby, il a fait.
Ah oui,
c'est
oui,
plus
okay.
connu, mais il a fait Mind Game, plein de choses. Mm-hmm. Incroyable, il a un style très particulier. Donc, si vous voyez, j'ai dit son nom, vous savez exactement à peu près à quoi ressemble ce qu'il a fait. Ça a été fait aussi par le studio Madhouse, bon, bref, très connu. Ça parle de quoi? Ça parle d'un mec qui est à l'université et il a gâché sa première année, il est triste. Et il décide, ok, maintenant, je vais commencer une nouvelle vie, je vais à une destination et je vais trouver l'amour de ma vie. Parce que mon objectif, c'est de trouver l'amour de sa vie. Et chaque épisode, en fait, il choisit une association différente ou un autre trajet de vie et son année se passe différemment. Et en fait, à chaque fois, il y a des dénominateurs communs à toute sa vie. Il y a un mec qui s'appelle Ozu, qui est son meilleur ami, qui à chaque fois lui met des bâtons dans les roues. Oh. Il a toujours le même crush, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est toujours la même fille qu'il revoit à chaque fois. Mm-hmm. Et au final, à chaque fois, il se passe quelque chose d'autre, mais l'histoire avance quand même. Je sais pas comment le décrire.
En fait, l'histoire, elle se répète.
En fait, à chaque fin, il dit il y a un truc du genre, mais pourquoi j'ai fait ça, je regrette tout, j'aimerais tellement que Dieu me ramène en arrière. Et à chaque fois, ça le ramène en arrière.
Okay.
Jusqu'au dernier épisode, justement, où il y a quelque chose qui change. Il se rend compte de quelque chose et ça change. Mm-hmm. Et l'animation est très spéciale. Mm-hmm. C'est vraiment un animé incroyable parce que c'est rigolo. Bon, en fait, je peux pas décrire le style avec des mots. Mais
ça s'appelle comment ?
Tatami Galaxy. C'est en 11 épisodes finis, sorti il y a longtemps, peut-être il y a 10-15 ans maintenant.
Ok.
Si le style ressemble un peu à Devilman, ça doit être très.
C'est pas exactement comme Devilman.
Mais...
C'est tiré d'un visual novel, il me semble aussi.
C'est très épuré, non ?
Ouais, c'est assez épuré. Bah, je vais vous montrer. Bon, bref.
Et un peu psychédélique sur la.
Très psychédélique, même.
Ok.
Et je sais pas comment dire. Je trouve que c'est un animé de romance pour moi, pas que, mais ça tranche vraiment avec le reste. Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai vu. Ouais, regarde. Tu vois.
Ok, je vois, oui, effectivement, c'est pas le style auquel je m'attendais.
Et du coup, à chaque épisode, bien sûr, il change de trajectoire, mais il retrouve toujours les mêmes personnages. Et en fait, on est amené au fur et à mesure de l'histoire, malgré que l'histoire change à chaque fois, à connaître de plus en plus sur la vie de tous ces personnages qui reviennent à chaque fois dans sa vie.
Mm-hmm.
Et la morale de l'histoire, je trouve, est très belle, donc je vais pas, bien sûr, la révéler. Mais c'est une très bonne morale, je trouve. Il y a vraiment un sens à tout ça, au final. Et voilà. Et si ça vous intéresse et que vous avez aimé, il y a aussi un film qui est sorti, qui est la suite.
Ok.
Tatami Galaxy.
Je connaissais pas du tout.
C'est sur Netflix, je crois.
Vu les dessins, je me serais pas attendu à ce que ce soit un truc comique.
C'est pas. Ah, je sais pas comment expliquer.
En fait,
c'est ni comique, ni de la romance, ni de l'aventure.
C'est quoi, en fait?
C'est la tranche de vie, en fait, au final.
Oui, ouais, je vois.
Mais c'est. En fait, le problème des travaux de Masaki Yuasa, c'est que. Les décrits, en fait, c'est les travaux de Masaki Yuasa, quoi.
Ouais.
C'est tout. Il y a rien qui ressemble à ça.
Faut les regarder, en fait.
Voilà,
les décrire, c'est un peu compliqué. Oui, je comprends totalement.
Mais déjà, on note que le personnage principal, après avoir raté sa première année, s'est pas dit on va forcer la chose. Il s'est dit non, on va trouver l'amour. Et ça,
je
c'est
vais trouver
beau.
L'amour.
Trouver ça, c'est beau.
Ouais. C'est vrai que moi, j'aurais pas fait ça. Mais je sais pas, je rate l'UTC. Ok, c'est pas grave, je vais. Trouver l'amour, du coup, vu qu'il
a raté mes études. Il est toujours à 2 ans, justement. C'est sa deuxième année, sa dernière année.
Là, au lieu de se dire, je vais charbonner ma deuxième année, pour pas me louper des fois, il dit non, je vais
faire les associations. Il y a peut-être un des trucs de sa vie où il va faire ça, justement.
Ah.
Et voilà, et il y en a plein. Il fait un club de tennis, il fait un club de cinéma, et bien sûr, il rencontre que des personnages très haut en couleur. Oui, c'est un peu du gros n'importe quoi à chaque fois. Mais c'est rigolo et je sais pas comment dire, c'est toujours super bien. Tu regardes un épisode, t'es content et t'as envie de passer à la suite. Après, voilà, la première fois que je l'ai vu, moi j'ai vu les 11 épisodes d'un seul coup. C'est un peu indigeste de voir les 11 épisodes d'un seul coup. Je vous conseille de regarder un par semaine.
Oui, parce que c'est pas lourd graphiquement, mais.
Bah, le dernier épisode, enfin, les deux derniers épisodes.
Je pense,
les derniers épisodes sont assez lourds. Franchement, c'est long.
Voilà. Ok, je vois. Mm-hmm. Je vois. Est-ce que quelqu'un a une idée d'un truc à.
Mais moi, en fait, je peux encore dire.
Oui, ah bon, oui. J'ai une œuvre. Je savais pas trop comment l'aborder, vu que. Mm-hmm. Voilà, on a fait un peu Childhood Friends to Lovers, on a parlé vite fait de la romance aujourd'hui dans les mangas ou même dans les œuvres, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, les objectifs, les demandes des lecteurs n'est plus la même chose. Et donc là-dessus, je voulais parler d'un de mes boys love préférés.
Oh.
Du moment.
Oh.
J'attends avec impatience la sortie du tome 4 qui va arriver. Je pensais que c'était déjà sorti, mais non, ça va sortir la semaine prochaine. Je vais attendre à la
porte de la librairie
pour aller l'acheter. Ah, vraiment, alors, c'est le premier Boys Love que j'achète.
Okay.
De base, je l'ai pris parce que c'est présenté plutôt comme de l'horreur, du mystère, voilà, un petit thriller. Bien, mais où les personnages sont très très bien développés. Ça s'appelle The Summer Hikaru Died, écrit par, alors c'est un pseudo, Moku Mokuren.
Ok. Voilà.
Donc,
c'est marrant que tu présentes ça comme un boys love.
C'est un boys love.
En fait, oui, c'en est un, mais.
C'est pas que ça.
C'est vraiment pas que ça.
C'est vraiment pas que ça.
On peut pas dire que c'est secondaire parce que c'est important pour l'histoire, mais en même temps. Quand moi j'ai commencé à lire, je savais pas qu'il y avait ça dedans. J'étais pas du tout au courant parce que c'est pas ça qui est mis en avant pour l'histoire, au contraire. Vas-y, représente un peu l'histoire.
Alors en gros, c'est présenté comme une histoire surnaturelle qui se passe dans un petit village un peu isolé dans les montagnes japonaises. Là-bas, on y suit l'histoire de deux lycéens, amis d'enfance. Leur groupe d'amis, ils se connaissent tous, voilà, petit village. Donc,
tout le monde se connaît, quoi.
Exactement. Et en fait, c'est quelque chose de présenté vraiment sur les trois premières pages. L'un de ses deux amis, donc Hikaru, n'est plus Hikaru.
Mm-hmm.
Voilà. Le vrai Hikaru est mort.
Mm-hmm.
Là, c'est une entité surnaturelle qui a le corps d'Hikaru, les souvenirs d'Hikaru, qui parle comme lui, agit comme lui et se fait passer pour lui.
Voilà. Ouais.
Et son meilleur ami, l'a cramé.
Mm-hmm.
On commence là-dessus. Il l'a cramé. Et l'histoire, c'est savoir un peu quelle est cette partie surnaturelle qu'il y a dans le village.
Et puis qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Enfin, qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il sait que son meilleur ami n'est en fait pas son meilleur ami ?
Tout à fait. Et en plus, c'est une histoire de deuil parce que lui, il doit faire le deuil de son meilleur ami. Meilleur ami où on comprend que il y avait potentiellement
plus que ça, en fait.
C'est ça, il y avait une atmosphère, une affection où on se dit ah c'est vraiment mort dans l'œuf et donc il doit faire d'une part le deuil de ça
mais
en même temps il doit s'adapter à ce nouvel Hikaru qui a à la fois la mémoire et les sentiments de l'ancien Hikaru donc qui aime éperdument le personnage principal. Et en dehors de ça, ils veulent comprendre en fait, qui est cette entité. Lui-même ne sait pas exactement ce qu'il est.
Oui. Ah bon. L'entité elle-même ne peut pas vraiment expliquer ce qu'elle est, en fait.
C'est ça. Parce qu'avant, comme on disait, j'étais une entité.
Oui, c'est ça.
Je errais et je découvre ce que sont les sentiments. Voilà.
C'est ça.
C'est vraiment les paroles.
Ça pose un peu la question aussi de... qu'est-ce qu'on est au final ? Est-ce qu'on est nos souvenirs ? Est-ce qu'on est... non, du coup, parce que le faux Hikaru a tous les souvenirs de l'ancien Hikaru, mais on ne peut pas vraiment dire que ça soit lui. Et il a ses sentiments aussi, mais pourtant, on ne peut pas vraiment dire que ce sont les siens. Ou alors peut-être que si, ou c'est un petit peu difficile. Et puis, c'est vrai que ça pose un gros dilemme moral pour le personnage principal, parce que...
Yoshiki.
Parce qu'il peut soit le... entre guillemets, dénoncer la créature qui est Hikaru, mais ça voudrait dire le perdre complètement, ça, et perdre tout ce qui reste de lui, parce qu'il a quand même ses souvenirs, et lui, physiquement c'est lui, et ils ont encore des choses en commun, et puis bah, voilà, l'histoire continue, du coup vous vous doutez bien qu'il ne le fait pas, il ne balance pas le
et en faux Icaro. Il voit l'être en question, l'existence, quelle qu'elle soit, elle veut vivre, elle veut sincèrement découvrir le monde, découvrir ce que c'est qu'être humain, partager des moments avec Yushiki. Il veut être Icaro.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et il semble vraiment avoir des sentiments ou tout du moins de l'affection pour Yushiki. Et
donc l'histoire c'est entre les deux
compliqué,
est
bien.
Terrible et terrible, et vraiment
c'est un drame,
très,
c'est
très bien amené.
Oui.
Et à côté de ça, il y a tout le mystère, le lore autour du village qui est développé entre les vieilles personnes, les personnes qui gèrent le village, des gens très random.
Oui.
Et on découvre qu'ils savent plus ou moins des choses.
Exactement. Et puis
sans avoir toute la vérité.
Et puis je trouve que l'ambiance elle est très pesante parce qu'en fait ça se passe dans un petit village perdu dans les montagnes du Japon, comme t'as dit, ça se passe l'été en plus, du coup il fait très chaud et ça se ressent en fait dans toutes les pages du manga, que il fait chaud, il y a les grillons là, les criquets qui font énormément de bruit, ça rajoute une pression supplémentaire et ils se sentent tous oppressés, observés par les gens du village, parce que dès que tu fais un truc, le voisin du voisin il le sait, et en fait toute la terre le sait et ou quoi que ce soit,
et pourtant, ça tu vois les petits éléments surnaturels arriver et ils sont terrifiants, ils sont vraiment terrifiants,
c'est vraiment bien fait. Il y a un passage où ils traversent une forêt qui est un peu hantée, un peu bizarre, on sait pas, et en fait il y a une espèce de truc bizarre qui sort de nulle part aussi,
et toi même tu sais pas ce que c'est, vois le personnage, ils savent pas ce que c'est, et jusqu'à la fin tu sauras pas ce que c'est,
tu ne sauras pas ce que c'est,
le truc il aurait pu te grailler dans le plus grand des cas.
Ouais, c'est ça. Et puis en fait on se doute bien aussi qu'il y a tout un mystère dans la mort de Icaro au départ. Qu'est-ce qu'il était allé foutre en montagne déjà pour disparaître comme ça, on sait à peu près mais en même temps on sait pas trop. Il y a tout un truc très mystique en fait qui se passe autour de la montagne et de leur village et de la communauté en fait, et voilà. Et plus du coup l'espèce de romance un peu bancale, centrale, compliquée,
ce qui est beau avec ce genre de roman, c'est qu'on ne sait pas, on ne s'attend pas à ce que ça parte comme ça, on ne sait pas où est-ce que ça va, c'est vraiment bien amené, bien réfléchi, on est vraiment plongé dans les pensées des personnages qui doivent interpréter les choses comme elles viennent, et qui essayent de communiquer au mieux, mais qui eux-mêmes ne savent pas ce que c'est. Enfin, ne se comprennent même pas, qu'on ne comprenne même pas leurs propres sentiments.
Mais oui, c'est ça.
Et ça, c'est beau.
C'est vraiment bien fait, quoi. Donc, pour maintenant qu'on parle de Boys Love, je vais parler un petit peu de Given, parce que ça me donne l'occasion d'en parler. Je voulais en parler un petit peu avant la fin. Mais oui, Given, en fait, c'est un manga et aussi un animé. Moi, j'ai juste regardé l'animé, j'ai pas vu le manga. C'est un manga yaoi, Boys Love. Je pense que c'est relativement la même chose, qui est écrit par Natsuki Kizu. Et en fait, qui raconte dans un lycée l'histoire d'un jeune homme qui était en couple avec un autre jeune homme, du coup, qui faisait de la guitare, sauf que on comprend assez vite qu'il y a eu soit une rupture difficile, soit quelque chose d'un peu d'étrange entre les deux, et au final, il garde la guitare de son petit ami. Et du coup, il va se rapprocher d'un autre garçon dans sa classe qui est super fort en musique.
Qui est très beau.
Qui fait partie d'un groupe de musique. Et en fait, cette personne-là décide de l'aider à apprendre à jouer de la guitare. Et en fait, ça commence un peu une nouvelle romance entre les deux qui est centrée autour de la guitare. Sauf que c'est un peu compliqué parce qu'il y en a un des deux, il apprend la guitare pour, en quelque sorte, se rapprocher et se repentir aussi envers son ex-copain, alors que l'autre a des sentiments grandissants pour l'autre et tout ça. Et je trouve que c'est une histoire vachement touchante. La musique que j'ai passée tout à l'heure, elle est issue de Given. Et alors, son contexte, c'est juste une musique comme ça, mais quand on la regarde dans le contexte de l'animé, c'est vraiment déchirant. Moi, j'ai pleuré quand elle est passée samedi. J'ai pleuré parce que c'est vraiment un moment hyper émouvant. Et voilà, la fin est sympa. Après, c'est vrai qu'il faut être familier.
La fin est sympa, c'est fini ?
Je sais pas. Enfin, l'animé, oui, il est fini. Mais je crois qu'après, il y a eu un film que j'ai pas regardé. Mais en vrai, on peut s'arrêter à l'animé, je pense. Okay. Ça se clôt plutôt bien, j'ai l'impression. Mais il y a peut-être une suite après, je sais pas exactement. Après, il faut être familier un peu avec l'univers des Boys Love, dans le sens où... Alors, il y a rien de fou, hein. Franchement, il y a rien de sexuel ou quoi là-dedans. Mais c'est surtout que... Les personnages, c'est que des garçons et ils sont tous en couple avec des garçons, quoi. Enfin, voilà.
Ok.
C'est tout. Et c'est super bien. Voilà. C'est un peu... Enfin, comment dire? C'est un peu le boys love yaoi classique. Mm-hmm. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres que je ne connais pas personnellement parce que j'en lis pas tant que ça. Mais je sais que c'est un peu la porte d'entrée de tout le monde dans cet univers-là, où c'est un peu le yaoi que tout le monde connaît, ou voilà quoi.
Ouais, et qui n'est pas, genre, justement, pas trop érotique.
Non, ça va. Je crois que le manga a des passages un peu érotiques, mais je l'ai pas lu, du coup, je peux pas trop en dire. Mais en vrai, ça a l'air d'aller, ça va, rien de vraiment terrible. Dans l'anime, il n'y en a pas, ou alors vraiment très 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 peu. Et c'est vachement bien. En fait, je pense que c'est un peu le manga Boys Love yaoi le plus mainstream en fait qu'on ait.
Bah du coup, juste peut-être je vais finir sur quelque chose très rapidement.
Bien sûr.
Moi, ça me fait penser à une sorte de dernier segment, on pourrait parler des romances un peu plus adultes entre guillemets. En fait, quand tu as parlé de musique, moi j'ai tout de suite pensé à Solanine qui a la BD Bedeck aussi, qui est aussi une histoire d'amour qui se base sur la musique. Donc pareil, ça parle de bon, il y a pas de mort, mais ça parle d'un couple qui vit, je crois que c'est 2 ans après l'université. Donc là, j'ai les noms, c'est Meiko et Taneda. C'est donc juste rapidement, c'est un manga écrit par Inyo Asano, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Voilà, bon, bref. Donc, ça fait 2 ans qu'ils sont sortis de l'université, ils savent pas trop quoi faire dans leur vie. Mais en même temps, le mec, je sais plus comment il s'appelle, du coup, en fait, honnêtement, je sais pas différencier non féminin, masculin. Il est toujours passionné par la musique et il est poussé par sa copine pour un peu tout abandonner pour se remettre dans la musique. Mais bien évidemment, au tiers, moitié de l'histoire, il se passe quelque chose qui va tout changer et qui est finalement. L'intérêt de tout le livre, voilà. Donc j'en dis pas plus, mais c'était pour peut-être parler d'une romance un peu plus adulte qui se base aussi sur la musique et qui est très très bien.
Non, je suis d'accord. Bah moi c'est vrai que, enfin, je serais plus attirée aujourd'hui par lire des romances soit entre adultes, soit entre personnes qui sont peut-être à l'université.
Ouais.
Les trucs au lycée, ça dépend comment c'est écrit.
C'est rigolo, c'est mignon, mais
c'est rigolo, c'est mignon, mais souvent c'est un.
Ça paraît ridicule.
C'est
parfois.
Vu, revu.
Ouais, ou en tout cas, vu et revu, et peut-être un peu lassant parfois. Ouais, ridicule.
Tu regardes ça juste pour faire ah, waouh, comme ça. Mais sinon, je sens que ça n'a plus trop de lien avec notre vie.
Ouais.
Oui, c'est ça. Juste pour rigoler, on quoi. A un petit peu grandi aujourd'hui.
C'est juste pour rigoler. Si... Hein.
Oui, oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, je me reconnaîtrais plus trop dans une romance lycéenne, dans les trucs des premiers amours. Ouh là là, il m'a regardé.
C'est vraiment ça en plus.
Ouais, c'est, bah, oui, c'est ça. Moi, ça me concernait pas tout ça, quoi. Donc, je suis plus dans ça. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter?
Bah, si vous avez qu'une seule chose à retenir dans cette émission, c'est qu'il faut regarder Clannad et que le reste, c'est pas bien.
C'est vraiment pas ça.
Merci de nous avoir écoutés, finalement.
Non, non. Lisez ou regardez tout ce qu'on a dit parce que c'était trop bien.
Ne pas sous-estimer le pouvoir de la romance dans les œuvres, même si ce n'est pas forcément des œuvres qui tournent que autour de la romance.
Ça c'est un petit truc genre on
peut vraiment augmenter en fait. Je trouvais rajouter une.
C'est pas ça. C'est qu'on se dit parfois ça peut être ridicule. Mais au final tu commences ta romance et tu t'attaches au personnage et au final tu lis le truc en entier.
C'est
la
manière de lire les personnages.
Et oui, exactement. Et c'est une manière pour eux d'exprimer des émotions. Parce que l'amour, en fait, c'est qu'une question d'émotion au final. Et du coup, quand t'as une relation amoureuse entre des personnages, bah, là, c'est le moment où il faut regarder leurs émotions et ce qu'ils ont dans le cœur au final. Mmh. Et c'est ça qui est beau.
Imaginez un shonen, fusion shonen et une magnifique romance. Comme bien amené, comme...
Bah, ça doit exister en vrai. Hein.
Ça doit peut-être exister, mais j'en connais pas.
Non, je connais pas comme ça.
Ça doit exister, mais j'en connais pas.
Ça doit être un des points qui manque le plus dans les shonen mainstream.
À dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Bonne soirée. I'm not the only one.
sous.